On s'en va dans Matthieu 24. Matthieu 24. Et juste pour s'introduire, on va lire les trois premiers versets, mais on va défiler pas mal de versets aujourd'hui. On va les regarder verset par verset. Pour ceux qui n'ont pas entendu le message de la semaine dernière, je vous conseille très fortement de l'écouter. Le message de la semaine dernière était vraiment pour une mise en contexte du chapitre 24, et je pense que c'était très important d'avoir les éléments que j'ai mentionnés. Sinon, c'est pas grave, je veux dire, si vous l'écoutez juste que vous n'avez pas entendu de la semaine aujourd'hui, c'est pas comme vous allez être complètement perdu, là, mais ça va vous donner beaucoup plus de perspective et de contexte, OK? Parce que là, vraiment, aujourd'hui, on plonge dans le texte. La semaine passée, j'ai beaucoup plus situé le contexte, puis méthode d'interprétation et tout ça, fait que ça, maintenant que c'est éclairé, j'en parlerai pas ben dans ce message-là, mais j'aimerais qu'on lise les versets 1 à 3, où est-ce qu'on va regarder à partir de là, puis dans les versets qui suivent, Jésus qui donne les signes de son avènement et de la fin du monde. Vous allez voir, c'est la réponse à la question à la fin du verset 3. Comme il s'en allait, au sortir du temple, les disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous dis, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Le message va être bien simple. Là. Ça ne sera pas du style conventionnel, introduction, trois points, conclusion. Ça va plus être explication verset par verset parce que le texte se prête plus à ça. Comme je le disais tantôt, j'ai donné déjà beaucoup d'éléments qui nous aident à situer le chapitre dans son contexte, non seulement dans Matthieu, mais dans son contexte eschatologique, dans le contexte plus large de la Bible. Donc, comme je l'ai dit, je l'ai fait dans le message précédent, je ne vais pas refaire ça maintenant. Donc, on va plonger directement dans notre texte avec des explications. Je l'ai souligné la semaine dernière, mais dans les versets 1 à 2, bon, ils sont là, ils sortent du temple, puis là, ils font remarquer les constructions. Et Jésus leur dit, je vous dis, il ne va pas rester pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et j'avais fait remarquer que tout ça n'est pas étranger à ce qui avait été dit dans 23-38, « Voici, votre maison sera laissée déserte. » En parlant du temple. Et donc, il y a vraiment un lien entre les deux ici. Entre eux autres qui étaient là, regarde le temple, le beau temple, et tout ça, puis je ne sais pas si vous vous rappelez la semaine dernière avec Jérémie, le temple, le temple, le temple, eux autres, pour eux autres, c'était vraiment, hein, c'est là que Dieu fait résider son nom, c'est le centre de l'adoration d'Israël, et tout ça. Mais Jésus, ici, fait toute qu'une déclaration, et ça suscite donc la question à la fin du verset 3, tu sais, bon, Jésus dit, il n'y aura pas pierre sur pierre qui soit renversé. Là, on dit, OK, il y a quelque chose qui, pour moi, il va y avoir certains éléments perturbants. Donc, il demande, une fois qu'ils sont assis, dis-nous quand cela arrivera-t-il, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Vous savez, quand on entend ici les disciples parler d'avènement, faut pas comprendre ce que nous, nécessairement, on comprend. On dit, ah, Jésus va revenir bientôt. Eux autres pensaient à Jésus va venir les débarrasser de Rome. Jésus va venir dans toute sa gloire établir son royaume. Ils pensaient beaucoup plus dans l'immédiat. Maintenant, dans la réponse de Jésus, vous allez voir, à partir du verset 4, c'est une longue réponse, mais juste pour situer, je l'avais souligné la semaine dernière, évidemment, quand il n'y aura pas pierre sur pierre qui va être renversé, ça s'est littéralement accompli en 70 après Jésus-Christ. Avec l'empereur. On dit-tu Tite ou Titus? Là, je n'ai pas vérifié dans les livres d'histoire, là, mais. En anglais, on dit Titus, là, mais tu sais, il y en a qui disent Titus en français, mais c'est Tite, là, dans le fond, en tout cas. Ouais, c'est ça. Cet empereur romain qui a pris Jérusalem d'assaut, l'a détruit et tout ça. Et bon, je vous l'avais dit la semaine dernière, ils ont détruit la ville, puis ils ont détruit le temple. Mais l'or qu'il y avait, avec le feu qu'il y a eu, puis tout ça, ça l'avait été dans les décombres. Puis donc, pour aller vraiment chercher tout l'or qu'il y avait, ils ont littéralement tout viré pierre sur pierre. Toutes les pierres, puis il n'en est pas resté. Et donc, c'est accompli en 70 après Jésus-Christ. Mais comme vous allez voir dans le reste du message aujourd'hui, c'est un accomplissement partiel. Vous rappelez-vous que j'avais parlé de l'expression prophétie télescopique, c'est-à-dire une prophétie, ça arrive souvent, là, la Vierge sera enceinte. C'est arrivé du temps de d'Ésaïe avec ses enfants, c'est une prophétie sur ses enfants, mais on sait que ça l'amène plus loin à l'accomplissement avec Jésus-Christ. Ben ici, il y a un accomplissement partiel en 70 après Jésus-Christ, mais les événements eschatologiques de la fin sont le plein accomplissement de ça. C'est ça, puis là on arrive au verset 4, Jésus leur répondit, donc il répond à leur question, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Je veux qu'on prenne ici le temps de bien situer. La première chose qui sort de la bouche de Jésus, c'est une mise en garde. Et je crois que ça donne le ton, l'atmosphère de l'ensemble du chapitre. C'est une exhortation à la vigilance spirituelle. Puis ça continue d'ailleurs, parce qu'après ça, chapitre 25, c'est des paraboles à teneur de justement vigilance, exhortation à la vigilance. Puis Jésus aussi, quand il était dans le jardin, hein, veillez et priez, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, OK? Et pour être plus spécifique ici, c'est une vigilance par rapport à la séduction. OK? Parce qu'il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. La séduction, c'est avoir quelqu'un, l'amener à faire quelque chose sans qu'il s'en rende compte, au moins de la tromperie. OK? Et je veux dire, depuis Jésus, on a vu ça tellement, de toutes sortes de séductions. Et là, en fait, depuis le Jardin d'Éden, je veux dire, Satan est le grand trompeur, il est menteur, il n'y a pas de vérité qui sort de lui. Quand il parle, il dit le mensonge, il parle du fond de lui-même comme étant le père du mensonge. Mais c'est aussi ce qui caractérise l'esprit de l'antéchrist. Et quand, là, je vais prendre l'expression antéchrist à différentes reprises dans le message, il y a une expression spécifique à l'antéchrist, puis une plus générale. Quand Paul, pas Paul, mais Jean, il dit il y a plusieurs antéchrists qui sont venus dans le monde, puis là, ça c'est l'expression générale. Les gens qui... Puis on dit anté, puis anti. Anté, c'est avant, puis anti, c'est contre. Là, il y en a qui vont faire un débat, on devrait dire anti, anté. Mais je pense que le concept d'antéchrist, il y a les deux de toute façon. Là. Il vient avant le retour de Jésus en gloire, établir son royaume, mais aussi... il est contre Jésus-Christ. Mais aussi, il y a l'antéchrist avec, vraiment, ici on pourrait dire un grand A, là, si on peut dire ça. Le personnage historique dont parle la littérature eschatologique de la Bible, comme par exemple dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, ça en parle comme étant l'homme impie qui va venir, puis avec la séduction du péché, là, là. Ça c'est... Puis ça en parle dans Daniel comme étant celui qui a une bouche qui professe plein de blasphèmes contre le Très-Haut. Donc, il y a ces deux sens-là, et on peut s'accorder sur le fait que notre temps en ce moment, je crois que vraiment l'esprit de l'antéchrist, de tromperie, de séduction, c'est incroyable, c'est partout. Puis on va le voir aussi dans le reste des versets. Mais regardez aussi au verset 5, ça dit « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ ». Et séduiront beaucoup de gens. Donc ici, on parle des agents de séduction. Jésus met en garde la séduction. Puis là, il parle des agents de la séduction qui se disent être de Christ. Ils viennent en mon nom. Donc, ils se représentent comme étant de Christ ou littéralement comme étant le Christ. Et savez-vous, je l'ai souligné aussi la semaine dernière, il y a eu une prolifération des antéchrists comme ça avant la destruction de Jérusalem en 70 avant Jésus-Christ. Et je pense pas que ça l'a arrêté. Les Jim Jones, les David Koresh de ce monde, les Joel Osteen sont aussi, dans un sens, un antéchrist. Les gens qui se disent de Christ et tout ça, mais qui sont contre lui. Petits-enfants, c'est la dernière heure. Et vous avez appris qu'un antéchrist vient. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Maintenant, remarquez, je l'ai dit tantôt, la distinction entre l'antéchrist singulier et antéchrist au pluriel. Celui dont j'ai référé tantôt, je vous lis la référence. « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. » il l'écrasera par le souffle de son avènement. Donc, plusieurs antéchrists, mais un antéchrist singulier. Une distinction importante à faire. Maintenant, si on avance au verset, on va lire 6 à 8 en un bloc, puis on va le traiter ensemble. Verset 6, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Plusieurs signes qui sont donnés. Et ici, il faut comprendre, quand ça dit « ce ne sera que le commencement des douleurs », l'idée ici, c'est comme les douleurs de l'accouchement, de l'enfantement. Okay? Et d'ailleurs, une référence parallèle à ça, ceux qui prennent les notes, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3, elle dit « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'y échapperont point. » Maintenant, on va s'entendre, là, de toutes les époques, on a pu dire « Hey, ces signes-là sont là, n'est-ce pas? Est-ce que c'est d'hier qu'il y a des guerres, qu'il y a des bruits de guerre, une nation qui s'élève contre une autre? Qu'il y a des famines, des tremblements de terre. Je veux dire, il y en a toujours eu. Mais là, l'illustration de la femme enceinte, la femme en travail, nous aide à comprendre que l'idée, c'est que l'intensité et la proximité de ces signes accentuent. Comme une femme qui arrive au temps de son accouchement, les contractions sont de plus en plus fortes et de plus en plus rapprochées. C'est ça l'idée ici. C'est que ces signes, OK, on peut dire qu'ils ont toujours été là d'une façon espacée, mais plus on approche, plus ça s'intensifie et ça s'approche les uns des autres. OK? Faut comprendre que ces signes sont pour... oui, on peut voir pour les temps actuels. Mais aussi, faut voir que, comme je le rappelais la semaine dernière, ce chapitre est situé par rapport à Israël. Je l'ai dit, c'est israélo-centrique. Tantôt, on va regarder le passage, ça parle de Judée, les montagnes. C'est vraiment spécifiquement Jésus qui parle à Israël, pour Israël. Donc, il faut comprendre aussi donc, les temps de tribulation ou de l'angoisse de Jacob, comme dirait Jérémie dans Jérémie 37. Puis donc, les événements qui ont trait à ce qu'on appelle la tribulation, la grande tribulation, et l'arrivée de Jésus sur le mont des Oliviers. Donc, oui, c'est sûr que nous, on voit ça en ce moment, mais c'est plus proche du retour de Jésus, c'est aussi à comprendre dans ce sens-là, avec les événements qui ont tout trait à l'Apocalypse, tribulation, grande tribulation. OK? D'ailleurs, en ce sens-là, ce qu'on voit ici dans Matthieu, et je pense que je l'avais souligné la semaine dernière, il y a des parallèles à faire avec la prophétie de Daniel, mais aussi d'Apocalypse. Et on voit, ça s'entrecoupe, c'est cohérent, ça se tient ensemble. OK? Maintenant, on arrive au verset 9. « Alors, on vous livrera au tourment et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Oui, un accomplissement partiel depuis la première venue de Jésus. Beaucoup de Juifs ont souffert à cause de son nom. Mais en général, la nation juive a rejeté son Messie. Et pour dire qu'Israël a souffert à cause de son nom, ça serait pas évident de faire rentrer ça dans le texte. Mais par contre, écoutez Romains 11, verset 11 à 12 et 25-27. « Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là, mais par leur chute, Israël, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? » Verset 25. « Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché. » Et donc, comme je le disais, ici, on comprend que Jésus parle d'Israël, à Israël, d'Israël et à Israël. Et donc, le verset 9 qu'on a lu, « Que vous serez haïs à cause de mon nom. » Je crois que ça l'a trait au futur, parce qu'en ce moment, Israël n'est pas haï à cause de Jésus-Christ. Eux-mêmes rejettent Jésus-Christ. Puis je crois que ça, c'est quelque chose qui va être vraiment spécifiquement ce qui va arriver lorsqu'ils vont se convertir, qu'ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. OK? Maintenant, si on arrive au verset 10. « Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. » Ces choses qui arrivent, qui vont arriver là, plus tard, là, avec les événements apocalyptiques de la tribulation, grande tribulation, je crois qu'on en a un certain prélude en ce moment. C'est-à-dire que je ne crois pas que c'est un hasard si cet esprit de haine, de division et de trahison est présent à grandeur de la planète. Je veux dire, on a vu ça dans des pays. Si vous avez étudié les régimes politiques, moi, c'est quelque chose que j'aime la politique. Regardez, par exemple, la montée, la révolution bolchevique, même la montée d'Hitler au pouvoir, puis tout ça, il y a tout le temps eu, eux autres, c'est les méchants, puis là, la division d'un contre l'autre, puis tout ça. On a vu ça localement, mais là, on voit ça partout. Puis ça, c'est unique. Puis on sait c'est qui les boucs émissaires. On a le droit de dire ça avec les gens qui n'ont pas, qui se sont pas conformés à cet ordre qui est donné partout de tout le monde qui doit avoir ça, c'est eux autres les boucs émissaires. Puis je sais pas si vous saviez, mais comme Hitler, puis il mettait tous les mots aussi, hein, il disait que les Juifs, il y avait des maladies, il disait qu'ils étaient des voleurs, ils étaient si, tu sais, fait que, that's the name of the game, comme on dit, OK? Ben, je ne veux pas trop prononcer ces mots-là, des fois, avec les choses de nos jours, là, technologie, là. On va être flagué ou je sais pas trop, là. En tout cas. Non, vraiment, je pense que c'est... On voit là cet esprit de l'Antéchrist qui est déjà à l'œuvre. Verset 11 maintenant, OK, bon, on a vu comment il y a de la trahison, tout ça, puis ça dit « Plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. » On en a parlé quand on était au verset 5, mais ici... C'est pas ceux qui se prennent pour l'Antéchrist, c'est des faux prophètes, des faux représentants de Dieu, qui se disent être de Dieu, parler pour Dieu. Ils disent pas « c'est moi le Christ », mais ils disent « moi je parle pour Dieu ». Je sais pas si vous voyez, mais en ce moment, ça pullule, connaissez-vous ce terme? Ça pousse de partout comme des champignons. Avec Internet, on peut entendre 200 000 voix différentes de façon qui se disent être de Dieu puis parler au nom de Dieu, allant du grand réveil au grand reset puis au grand Capharnaüm entre les deux, là, OK? Puis, il y a beaucoup de nouvel âge là-dedans, beaucoup de c'est une méchante soupe, là. Puis, elle sent pas très bon, OK? Donc, puis là aussi, on peut dire, oui, c'est vrai, il y a eu ça en Israël par rapport avant, en 70 après Jésus-Christ. Et encore là, je pense que c'était un accomplissement partiel avant le jugement de Dieu sur Jérusalem. On en voit maintenant l'accomplissement planétaire. Plusieurs faux prophètes, OK, et parce que, OK, j'étais verset 11, je voulais juste dire une autre affaire, parce que ça dit ici, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup. Ah non, c'est ça, je voulais chercher ma place, parce que je voulais revenir au verset 10. Alors, plusieurs succomberont. Dans le fond, ici, c'est un contexte de pression sociale. Succomber, ça vous fait penser à quelque chose? Succomber sous la pression. Et je pense qu'on voit, encore là, je prends l'expression prélude ou l'approche en ce moment de ce qu'on va voir à un degré beaucoup plus grand plus tard. Et on a toujours ce phénomène. Au moment du jugement de Dieu, la majorité s'égare, suivent la mauvaise voie, mais il y a toujours un reste. Il s'est même sorti avec Élie. Élie, là, c'est un temps de jugement, là. C'est un prophète à miracles, parce que vous remarquerez dans la Bible, les miracles, là, c'est pas hey, ça flash, puis hey. Non, les miracles précèdent les jugements. Regardez la sortie d'Égypte, le jugement est tombé. Élie, là, c'était le jugement. Élie, c'est un prophète à miracles, parce qu'après, c'est le jugement de la déportation qui est arrivé, là. OK? Puis Jésus aussi, puis les apôtres, ils ont fait des miracles. Qu'est-ce qui est arrivé? Le jugement est tombé après. OK? Donc, cette pression, puis... Donc, il y en a beaucoup qui flanchent, qui succombent, mais il y a toujours un reste qui se détache du lot, qui révèle qui Dieu est, puis la fidélité de Dieu, un peu comme Shadrach, Meshach, Abednego, comme Daniel. OK? Et je pense qu'on voit ça en ce moment d'une façon spéciale avec l'Église de Dieu. Le jugement va commencer par l'Église de Dieu. Et pour ceux qui sont super optimistes, moi, je pense plutôt que ça peut aller en s'intensifiant. Parce que même si le monde parle de réveil, je crois que c'est des faux réveils, que beaucoup là-dedans, il y a un mélange de nouvel âge, de confusion, puis tout ça. Et beaucoup qui vont se dire, s'attacher au Seigneur, finalement vont trébucher en trébuchant sur Christ, la pierre angulaire. Parce que regardez beaucoup ce que le monde dit en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même au Québec, beaucoup de gens parlent de Dieu. J'étais surpris de voir... Tu sais, t'en as, je sais pas s'il y en a qui suivent un peu là, l'actualité au Québec, mais du monde de plus en plus qui parle de Dieu. Puis là, un gloire à Dieu, moi je suis content qu'il y en a qui considèrent vraiment l'Évangile. Puis je pense qu'il y en a là-dedans qui s'ils n'ont pas encore connu le Seigneur, qui sont proches de le connaître. Puis gloire à Dieu, je dis c'est super. Mais il y en a beaucoup qui ils se heurtent sur Christ qui est la pierre angulaire. Ils sont prêts à parler de Dieu, mais quand tu parles de Christ, la personne spécifique, les mêmes personnes vont dire « Parle-moi pas de ton Jésus, par exemple. Ah, c'est beau Dieu, puis la spiritualité, mais là, Jésus, là, quand même, il va pas venir nous sauver, puis tout ça. Pis... » Fait qu'on a les deux côtés, et moi, je vois là-dedans vraiment ce que Ésaïe a parlé par rapport à Christ, justement, dans Ésaïe 8. Où est-ce qu'il dit? C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront et tomberont et se briseront et seront enlacés et pris. Donc, il y a ces deux aspects-là. Maintenant, on arrive au verset 12. Il y a des versets classiques qu'on a dans Matthieu 24, verset 12, c'en est un de ceux-là. « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Ici, remarquez, il y a un lien direct entre le péché du cœur. Quand vous voyez le mot « iniquité » dans la Bible, tu sais, le mot « péché », c'est pas tout le temps « péché ». Des fois, c'est « iniquité », « transgression », puis bon. Quand c'est le mot « iniquité », ça réfère au péché du cœur. Les péchés cachés, les péchés... qui sont à la base, à la source des autres péchés qui sont plus manifestes. Hein? Quelqu'un qui a un problème, qui se voit, mettons, la boisson, les femmes, puis tout ça, ben, dans son cœur, il y a une iniquité en arrière de ça, de vouloir tout pour lui-même, immédiatement, gratification immédiate, comprenez-vous? Il y a un péché évident, mais il y a une iniquité en arrière de ça qui conduit vers ça. Okay? Mais ici, ça dit, il y a un lien direct qui est fait entre l'iniquité, le péché du cœur, et le refroidissement de l'amour du plus grand nombre. Et quand je pense à part d'amour, je pense que c'est de l'amour pour Dieu et pour autrui. Et donc, lorsque le péché du cœur n'est pas reconnu, lorsqu'il n'y a pas de repentance face aux péchés qui sont dans notre cœur, ça va produire irrémédiablement le refroidissement de l'amour. L'amour, c'est le don de soi pour Dieu, pour les autres, c'est un dévouement. Et ça, mes amis, je crois qu'on a une loi spirituelle ici. Si on ne deal pas avec les choses dans nos cœurs, on va se refroidir par rapport à Dieu puis notre prochain. C'est pour ça que Jésus a dit « Veillez et priez » afin de ne pas tomber dans la tentation. Puis verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Donc, il y a un contraste. Il parle de ceux dont l'amour se refroidit. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La réalité de l'amour, de la foi, est démontrée par la persévérance. Persévérance des saints, persévérance des enfants de Dieu qui persévèrent dans la voie, sur le chemin étroit. Et ici, je crois pas que ce verset enseigne la perte du salut. Ah, tu sais, t'es sauvé, mais là, oups, t'as perdu ton salut parce que t'as pas persévéré jusqu'à la fin. Puis je pense pas non plus que ça parle de « Ah, je vais garder mon salut en étant un bon chrétien. » Non, parce que quand on met ce verset-là, tu sais, la parole éclaire la parole et on compare les Écritures avec les Écritures. Si on compare le verset ici, 13, à 1 Pierre chapitre 1, verset 5, ça dit « À vous qui, par la puissance de Dieu, est gardé par la foi pour le salut à être prêt à être révélé dans les derniers temps. » Donc, on est gardé par Dieu. OK? C'est Dieu qui nous garde. Puis, Dieu dit aussi dans Jérémie 32, 40, puis c'est un passage prophétique sur la nouvelle alliance en Jésus-Christ. « Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai point d'eux. Je leur ferai du bien. Je mettrai ma crainte dans leur cœur. » C'est Dieu qui fait ça, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. C'est Dieu qui nous garde. Si ça dépendait de nous, garder notre salut, personne ne serait sauvé. Ou personne ne resterait sauvé. C'est soit de Dieu ou ça ne l'est pas. C'est soit tout de Dieu ou ça ne l'est pas pantoute. OK? Souvent, je pense à la confusion qu'avec les passages qui peuvent sembler enseigner la perte du salut, je pense que c'est simplement des passages qui parlent de l'apostasie. Des gens qui ont professé Christ, ils ont été dans l'Église, sont sortis du milieu de nous, ils ont tout eu comme s'ils étaient sauvés, puis leur fin a démontré qu'ils n'ont jamais été régénérés. Ils n'ont pas perdu leur salut, ils ne l'ont jamais eu, même s'ils semblaient l'avoir. Okay? Vous regarderez Hébreux 6, Hébreux 10, puis des passages comme ça. Ça devient clair lorsqu'on comprend ça. Et il faut aussi comprendre ici que Dieu nous garde, mais sans jamais violer, si vous voulez, notre propre foi. C'est-à-dire, on est gardé, pour reprendre ici, là, 1 Pierre chapitre 1, c'est-à-dire à vous qui, par la puissance de Dieu, est gardé par la foi. Fait que, tu sais, il y a les deux aspects, là, OK? Ceux qui savent ici, là... on croit que c'est ça. Il y a toujours les deux côtés. Les grandes doctrines de la Bible, il y a toujours deux côtés. Hein? Jésus est 100% Dieu, 100% homme. Il y a le côté, la souveraineté de Dieu, libre arbitre de l'homme. Puis même, tu sais, pour nous garder, puis tout ça, c'est Dieu qui nous garde. Mais on a aussi l'aspect de la foi, tu sais. Fait que c'est ces deux aspects-là. Ça m'amène au verset 14, qui est un autre bien connu. Et je vais vous donner la référence parallèle qui était encore plus connue dans ce sens-là. Verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Et si on compare ce verset de Matthieu à Marc 13, 10, ça dit « Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. » Deux versets qui viennent du même discours, mais dits par deux évangélistes différents. Comprenons, je ne crois pas du tout que ça soit accompli complètement en 70 après Jésus-Christ, cette condition au retour de Christ. Certainement partiellement, l'Évangile s'est beaucoup répandu dans le monde de l'époque, mais pas comme en ce moment. Maintenant, par contre, on voit en ça un signe de l'imminence de Christ. C'est incroyable. Je veux dire, y a-t-il une tribu à quelque part dans une forêt dans le fond qui n'a pas entendu parler de Christ? Je pense à montre l'imminence du retour de Christ. Verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. On va prendre le temps d'expliquer ça. Je pense que c'est pas mal le verset que j'ai le plus à dire. Vous allez voir, à la fin, ça va plus vite parce que c'est des versets qui vont ensemble. Mais là, je vais prendre le temps d'expliquer ici. Cette expression, l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, OK? Mais juste avant de parler de ce verset-là, à partir de ce verset-là jusqu'au verset 28, Jésus donne beaucoup là, d'événements eschatologiques qui se succèdent l'un à l'autre. Et on a un parallèle à ça dans Luc, au chapitre 17, pardon, verset 26 à 26. Et écoutez ce que Jésus a dit, ce que... Luc a retenu de ce que Jésus a dit dans ce discours-là. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantait, bâtissait, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Puis, on pourrait faire le parallèle aussi avec 1 Thessaloniciens chapitre 5, où est-ce que ça dit que le Seigneur va venir comme un voleur dans la nuit. Ça dit que on n'est pas dans les ténèbres pour que ce jour nous surprenne comme un voleur. Donc, il parle que Jésus va venir comme un voleur dans la nuit, mais que nous, on n'est pas des ténèbres pour que ça nous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants de lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point, mais veillons, soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres et en revêtus la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Si on met tout ça ensemble, on voit un pattern où est-ce que Christ parle de son retour en faisant des parallèles avec l'époque de Noé. Avez-vous remarqué le pattern? Avant que le jugement arrive, Dieu a enlevé les siens. On a vu ça avec Noé, on a vu ça avec Lot, et je crois qu'on va voir ça. Je le répète, là, moi, c'est mal. C'est ce que je crois. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, c'est pas grave. Je ne vais pas vous tirer des tomates, ni des cocombes non plus. Je ne vais rien vous tirer. Je vais même faire une colle si vous voulez. Je veux dire. Mais, genre, je crois que l'enlèvement est avant les événements de la tribulation, en mettant tous ces passages-là ensemble. Avant le jugement, les justes sont enlevés. Donc ça, c'est une première distinction que je voulais faire. Et maintenant, si on arrive à la fameuse expression de l'abomination de la désolation, ça, ça nous vient de Daniel chapitre 9, spécialement le verset 27, mais je vais vous lire 26-27, là. C'est-à-dire, après 62 semaines, le Messie sera retranché, il n'y aura point de successeur, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme une inondation, et il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, le dévastateur commettra des choses abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Des troupes se présenteront sur son ordre, ils profaneront le sanctuaire, la forteresse, et feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Si quelqu'un dit, ouais, mais ça, c'est arrivé avec Antiochus Épiphane, ben, c'est vrai qu'Antiochus Épiphane a fait ça, sauf que ça dit que le Messie va être retranché. Antiochus Épiphane est venu avant Jésus. C'est avant, c'est ce qui a donné la suite de la révolte des Maccabées. Je ne sais pas si vous avez une Bible catholique chez vous, là, mais dans les Bibles. Qui ont ce qu'on appelle les apocryphes. Là. Il y a ce livre-là qui... C'est pas reconnu dans le canon, mais ça a une valeur historique, disons. Mais on ne reconnaît pas ça comme étant les paroles inspirées. Là. Donc, encore là, juste ici, avec l'abomination de la désolation, OK, oui, on peut reconnaître une certaine nature télescopique à cette prophétie, où il y a un accomplissement initial, partiel, parce que oui, Antiochus Épiphane a... profaner le temple. Okay? Lui était roi de Syrie, il a fait le deuxième temple, celui qui a été conçu par Esdras, il en a fait un temple à Zeus, puis il a fait des cochons dedans. On dit, tu peux pas faire pire, là, t'sais. Puis il est clair qu'il y a plus à cet accomplissement parce que, bon, je l'ai dit, Jésus est venu après, puis ça dit que ça parlait du Messie qui allait être retranché. OK? Puis même ici, par rapport à la prise, la destruction de Jérusalem, le temple, tout ça, en 70 après Jésus-Christ, ça ne remplit pas toutes les exigences. Encore là, on peut voir seulement un accomplissement partiel. Pourquoi? Parce que Paul prend cette même expression de l'abomination de la désolation, puis en parle au futur, dans 2 Thessaloniciens 2-3. Alors là, c'est nous qui sommes fatigués. Je suis très conscient là, que le matériel prophétique, il y a beaucoup de choses à mettre ensemble. Si vous êtes éveillé, puis que vous avez encore 2-3 cellules qui marchent pour être capable de comprendre jusqu'à la fin, juste levez la main, dites amen, faites un signe de vie. OK, bon, merci. Non, ben, j'ai l'impression, c'est un peu... Mais c'est là qu'on est rendu dans Matthieu, mais bon. C'est que L'abomination de la désolation, OK, veut dire accomplissement partiel dans le passé, mais Paul en parle dans 2 Thessaloniciens comme quelque chose qui n'est pas arrivé. Et je vous lis le verset. Ben, les versets, ça dit que personne ne vous séduise. Encore la même affaire, la même atmosphère de ne pas être séduit. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Ça, c'est l'antéchrist au singulier, OK? Avec un grand A, si vous voulez. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et si on continue, on voit que toutes ces choses-là ont rapport à des choses à venir. Maintenant, Jean renchérit dans Apocalypse, au chapitre 13, lorsqu'il dit que ça parle de la séduction de tous les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été dressée par l'épée et qui vivait, et il fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image soient tués. Donc voyez-vous cette idée d'adorer, profanation, se proclamant lui-même Dieu. Donc ces choses qui, même si on peut avoir un accomplissement partiel dans le passé, attendent encore un accomplissement complet dans le futur. Ça va être l'ultime acte d'idolâtrie, de sacrilège contre Jésus-Christ, se proclamant lui-même Dieu et voulant l'adoration qui n'est réservée qu'à Dieu seul. OK? Et là, juste là-dessus, juste une petite remarque. N'est-ce pas quand même spécial que notre époque est caractérisée par l'idolâtrisation de l'homme? Non, mais c'est vrai, des vedettes de sport, des vedettes de Hollywood, des vedettes de chantage, des chanteurs. Puis là, ouh, les foules se déplacent. Puis vraiment, c'est comme si un dieu se présentait au milieu, puis oh! OK? Je pense que c'est encore là l'esprit de l'antéchrist à l'œuvre, l'esprit de séduction, l'esprit d'égarement qui prépare pour ce qui s'en vient. Et Jésus termine ce verset-là, bon, verset 15, je l'ai dit qu'on avait passé plus de temps, ça dit que celui qui lise fasse attention. Un autre avertissement, l'accent sur la vigilance spirituelle. Pourquoi? Parce que ceux qui vont vivre ces choses et avoir la lumière de ces avertissements vont en avoir besoin. Fais attention, ceux qui veulent, tu sais, ceux qui, parce que la parole, on l'a dans les mains, puis Dieu a préservé sa parole à travers tous les temps. Ceux qui, dans l'avenir, vont lire ça, ça va leur servir d'avertissement. Mais aussi, nous qui envoyons les signes avant-coureurs, en ce moment, on doit aussi user de vigilance, surtout par rapport aux distractions. Et là-dessus, bon, tu sais, on vient, les distractions, les téléphones cellulaires, puis des vidéos YouTube, ou faire ci, faire ça. Mais je pile sur les pieds d'un peu tout le monde. Là, je vais piler sur les pieds de nous, les dispensationalistes, là. Au lieu d'avoir les yeux tant sur l'antéchrist, puis la fin du monde, puis tout va mal, puis toutes ces choses-là, OK? Ne pas être distrait de garder les yeux sur celui qui va venir, sur notre espérance vivante. Amen. Ah, merci. Hey, c'est des... c'est des dispensationnistes qui ont dit oui, qui ont dit amen. Oh! Donc, la preuve qu'un chrétien aime ça, se faire piler ses orteils. La seule espèce d'animal bizarre que tu vas y piler ses orteils, tu vas donner 2-3 bonnes claques, puis il va venir te dire merci si t'es un chrétien. Parce que le Saint-Esprit, il dit, il a raison, écoute-le. Puis le chrétien, là, oui, c'est vrai, il a raison, faut que je l'écoute. Puis après, il dit, ben oui, je n'avais besoin, puis il vient te dire merci. C'est drôle pareil, hein? Toi, si tu as déjà fait ça, tu pourrais faire un message, tu dis, j'espère. Ben moi, je me dis pas ça, parce que si Dieu a quelqu'un offensé, ben, ça sera Dieu qui l'a offensé. Moi, je veux pas être méchant, là. Mais tu sais, la parole offense, là. Tu sais, repentez-vous quand le royaume des cieux est proche, là. C'est pas fait. Vous l'avez l'affaire, tu sais. C'était pas du style, là. Dieu voit le champion en toi, Israël. C'était pas vraiment de même. pour ceux qui n'ont pas compris la référence, c'était Joel Osteen. Qui est vraiment un antéchrist, un faux prophète, avec tout le kit, OK? On est rendu au verset 16. Puis là, mais là, on va lire 16 à 20. Vous allez voir, ça se tient en bloc. Alors, et là, remarquez la comment on dit Jewishness? Jewishness, comment on dit ça en français? La juiveté. Non, mais regardez, ben, au lieu de dire en un mot, regardez la spécificité juive. Que celui, verset 16, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, que celui qui est dans les champs ne se détourne pas pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes en ces jours-là, à celles qui allaitent en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Donc, je vous ai remarqué la spécificité juive de ces avertissements. Et pourquoi? Parce que c'est pour eux ces événements qui, je le crois, je le répète, vont arriver. Moi, je vous l'ai dit, mon interprétation de l'Apocalypse. L'Apocalypse, là, c'est le livre de la Bible, vous irez voir vous-même, qui donne le outline de façon inspirée. C'est-à-dire ce qui était, ce qui est, puis ce qui sera. Vous irez voir, c'est dans Apocalypse chapitre 1, là. OK? Ça le dit. Chapitre 1, c'est le passé, c'est Jean qui était sur l'île de Patmos, il raconte des choses, la vision qu'il a eue de Christ ressuscité, puis OK, dans toute sa gloire, et c'est comment il est terrifiant. Chapitre 2 et 3, l'époque de l'Église qu'on vit en ce moment, le présent. Et à partir du chapitre 4, zéro référence à l'Église, ça ne parle que d'Israël et c'est des choses pour l'avenir. Donc, à la lumière de ça, je crois que les avertissements qu'on a là sont en lien avec Apocalypse à partir du chapitre 4. Okay? Comme je l'ai dit, il y a une cohérence là-dedans. Faites votre étude par vous-même. Si vous n'êtes pas trop certain, regardez ça par vous-même. Verset 21 à 22, ça nous dit « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais eu. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Ici, une autre, c'est ici ce qu'on vient de lire, une autre des expressions souvent relatées dans le discours, OK, que ça nous parle en fond de frayeur inouïe. Tu sais, c'est « wow, ça va aller mal, ça va aller vraiment mal, ça va être plus que mal, OK? » Inusité, jamais vécu auparavant. Et encore là, je crois, c'est ça. C'est des choses qui ont pu arriver d'une façon amoindrie, temporaire, pas le mot temporaire, mais partiel, mais l'accomplissement complet, ça arrive. Ça dit dans Daniel 12:1, en ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, Israël. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, de ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Donc, on voit là, c'est ça, comment c'est unique, comment c'est été prophétisé dans Daniel. Donc, on parle ici d'une terreur, des événements d'une ampleur qui n'avait jamais été vécue avant. Et je crois non seulement en intensité, mais en scope. C'est répandu d'une façon inouïe. Maintenant, versets 23 et 24. « Si quelqu'un alors vous dit, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. » Nos deux groupes de tantôt sont dans le même verset ce fois-ci. « Et ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Remarquez, dans juste trois versets, à l'espace de trois versets, il y a deux références à l'élection. Ça dit que à cause des élus, ces jours vont être abrégés. Puis s'il était possible, il séduirait même les élus. Et qu'on se rappelle toujours que si ce n'était pas de la grâce de Dieu, nous serions tous séduits et trompés, même dans le moment présent, avec ce qui peut arriver dans le monde. Ça l'a toujours été, ça va toujours l'être aussi. Et j'aimerais juste dire que ça, c'est un des passages qui nous rappelle que l'élection nous est donnée pour notre réconfort. Si l'élection vous trouble, c'est parce qu'il y a quelque chose. Demandez à Dieu qu'il vous éclaire les yeux de votre cœur là-dessus. Dieu ne l'a pas donné pour qu'on sente mal et qu'on capote. Dieu nous l'a donné pour nous réconforter. C'est une belle doctrine qui vient de Dieu par le Saint-Esprit. On ne devrait pas être troublé par l'élection. on devrait en être réconforté. Parce que c'est ça ici qu'il dit, ça l'amène une certitude par rapport à ce qui est annoncé. Verset 25, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Là-dessus, Ésaïe a fait un gros cas de ça, d'annoncer les choses d'avance dans Ésaïe, spécialement chapitre 41. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez des moyens de défense, dit le roi de Jacob, qu'il les produise et qu'il nous les déclare ce qui doit arriver. C'est comme si, il dit, OK, mais on va faire un challenge, OK? Dites-moi ce qui va arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde. Encore, voyez-vous, l'idée de vigilance, de prendre garde. Et que nous reconnaissions, que nous en reconnaissions l'accomplissement. Ou bien, annoncez-nous l'avenir. Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux, avec un petit dé. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal pour que nous le voyions et que nous regardions ensemble. Et là, j'aime comment les prophètes y parlent. Voici, vous n'êtes rien. Et vos œuvres, et votre œuvre est le néant. C'est une abomination de s'appuyer sur vous. Voulez-vous le verdict? Non, ça ne marche pas. T'sais, vous voulez un challenge, puis tout, le verdict, mes amis, vous n'allez pas, pantoute, vous n'êtes pas du challenge. Ça, c'était Ésaïe 41, 20, 21 à 24. Puis, au verset, chapitre 42, verset 9, il dit, « Voici, les premières choses sont accomplies, et je vous en annonce des nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. » Donc, Dieu annonce l'avenir dans un but de défendre qui il est. Pas juste pour dire, ah, voici, tu sais, vous savez pas trop quoi discuter, c'est intéressant, on va parler de l'avenir. Mais non, c'est pour montrer qu'il y a juste moi. Les petits dieux sont pas capables de rien prédire. Moi, je suis Dieu, je vous dis quelque chose, ça arrive exactement de même. OK? C'est un but apologétique pour montrer qu'il y a juste Dieu qui est capable de faire ça. OK? Versets 26 à 28, encore là, on les prend en bloc. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là aussi s'assembleront les vautours. Ici, on voit que Jésus réfère à l'authenticité des événements qui annoncent versus la fausseté de la séduction que le monde et l'antéchrist vont amener. Ils vont dire ça, crois-le pas. Il va y avoir telle chose qui va paraître une nouvelle, croyez-le pas. Je pense que c'est important, on entend tellement d'affaires bizarres à gauche et à droite que tout homme soit reconnu pour menteur puis Dieu seul pour vrai. Puis j'aime ce que notre frère a dit, quand Dieu fait quelque chose, il s'assure que c'est lui qui a le crédit, que c'est lui qui l'a fait. Tu sais, puis les affaires de bing, bang, fly by night, là, pas trop sûr. Non, Dieu, c'est clair. Il dit, je ne vais pas donner ma gloire aux idoles. Puis quand ça vient de lui, c'est de lui. Puis verset 28, la fameuse expression, les gens se disent, oh, c'est quoi ça veut dire, les cadavres? En fait, c'est pas compliqué. Si vous êtes dans un lieu, mettons, vous êtes dans le désert, puis vous voyez des cadavres qui volent, là. Mais vous voyez des vautours qui volent. Bien, c'est parce que les vautours, c'est des carnassiers. Donc, vous êtes au loin, vous savez qu'il y a une carcasse en dessous, là, à quelque part. OK? Donc, l'idée, c'est que de loin, je vois, de par le signe visuel du vautour, que je sais qu'il y a un cadavre là. OK? D'ailleurs, cette expression-là nous vient de Job 39-33. Et donc, comme on peut voir, où sont les cadavres, on peut le voir de loin par les vautours qui survolent. Mais de même, on peut identifier les événements touchant le retour de Christ avec les signes qui lui sont associés. C'est ça l'idée ici. Que je pense que c'est pas plus compliqué que ça. On peut voir au loin, on peut associer les deux en voyant les signes qui sont là. Verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Ésaïe nous dit presque la même chose dans Ésaïe 13, 10, car les étoiles des cieux et les astres ne feront plus briller leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Les gens peuvent se demander, c'est-tu littéral, c'est-tu... Ben, si vous lisez l'Apocalypse, puis vous voyez ce qui se passe, ça va pas mal, puis si vous faites tomber une bombe à quelque part, ben, ça va pas mal faire que... Fait... je pense que ça, c'est pas farfelu quand on peut comprendre, tu sais, ce qu'une bombe nucléaire, mettons, peut faire quand toi, t'es là, puis il n'y a plus de soleil, puis tout ça, OK? Donc, je pense que ça fait référence ici à des gros phénomènes de même, comme justement une bombe, ou ça peut être aussi naturel. Dieu peut faire. Et si Dieu fait tomber une météorite, là, à quelque part, je peux vous savoir, mais ça va brasser, là. D'ailleurs, c'est-tu hier qu'il y en a passé une pas loin? Non, j'ai entendu ça à quelque part. Météorite. Je peux vous savoir, mais une météorite qui cogne la planète, là, dépendamment de la grosseur, là, ça peut pas mal faire des dégâts, là. Même, je pense pas qu'il y a des bombes qui battent ça, là. OK? Ensuite, au verset 30, ça dit: alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et avec une grande gloire. Le signe, je crois que le Fils lui-même est le signe. Il y a une lamentation universelle, une reconnaissance, et là, encore là, ça n'a jamais été vécu jusqu'à présent, et encore là, je crois que ça fait référence. Quand on voit dans l'Apocalypse, regardez, les signes sont dans l'Apocalypse, on voit comme ça une lamentation de la part des peuples de toute la terre et toute cette misère lors du retour de Christ. Puis là-dessus, si vous voulez un peu remplir ces choses-là, je vous invite à aller lire Zacharie 12, Zacharie 14, pour aller comprendre justement les détails à remplir pour... ce retour de Christ qui va venir sur le mont des Oliviers. Maintenant, verset 31. Il enverra ses anges avec des trompettes retentissantes et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Encore l'élection qui est ici, qui est ramenée. Et ceci dit, c'est pas un salut qui est exclusivement pour ou par Israël, mais ça dit de toutes les nations. Et là-dessus, je vais vous lire un passage tellement merveilleux de l'Apocalypse. Ça vient dans l'Apocalypse 7, ça nous parle de ceux qui sont marqués d'un sceau. Ça nous dit que, au verset 10, à partir, il criait d'une voix forte et disait: le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et adorèrent Dieu en disant: amen! La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen! Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis: mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont été blanchis dans le sang de l'agneau. Car c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frappera plus. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Vous savez, je veux juste terminer avec cette pensée-là. Oui, Matthieu 24, il y a de la prophétie, il y a de l'apologétique aussi. Mais il ne faut jamais oublier puis négliger que le but, c'est la doxologie, l'adoration. Dieu ne nous donne pas des choses pour nous divertir, puis comme je disais, passer un samedi soir un peu plate à parler d'affaires qui peuvent être palpitantes, genre film de science-fiction. Non, Dieu fait tout pour sa gloire. Et quand on voit dans l'Apocalypse, on voit que tous ces gens-là, c'est quoi qu'ils disent? D'une voix, ils disent: amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen.
Amen.
Parce que oui... OK, on peut passer du temps, ça peut être divertissant, ça dépend si vous êtes un fighter ou non, là, mais il y a de la matière à différentes interprétations avec ce qu'on a considéré aujourd'hui. Il y a des fighters, puis il y a au contraire qui veulent se tenir loin des fights. Comme ça dit dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour fighter, puis il y a un temps pour se tenir loin des fights. Là, je dis n'importe quoi. Là. Je pense que moi aussi, j'ai la fatigue m'affecte le cerveau, là, mais bon... Non, mais OK, il y a différentes matières à interprétation. Mais au bout du compte, là, en bout de ligne, lorsque toutes ces choses vont être arrivées, puis qu'on va être au ciel, peu importe comment ça va arriver, là, on va tout être unanime à louer puis adorer celui qui est l'auteur, la source et le but de toutes choses.
Amen, amen.
Faut jamais oublier ça. Parce qu'il y a un piège à se penser bon. Ah, moi j'ai raison, les autres ont tort, puis... Comme j'ai dit, il faut toujours garder avec humilité, mais au-delà, il faut garder les yeux sur celui qui est digne de toute louange, adoration. Puis je l'avais tout, il était là, là, louange, adoration, gloire, force, puissance, tout ça à Dieu. Et à Dieu seul. Amen?
Amen.
Amen. On va prier.